Intersection.
Intersectionnel.
La pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
Jamais Gramsci n'aura eu autant raison. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. Le vieux monde, clairement, c'est la Macronie, une Macronie qui n'en finit pas de se rabougrir et comme un animal blessé devient plus violente, plus outrancière, plus caricaturale des intérêts qu'elle sert à mesure que son emprise sur la société se défait. Les monstres, bah on les connaît. Ils peuvent dire des banalités sur TikTok, passer sur BFM ou Radio Alpa en cravate pour se dédiaboliser, pour se gendre idéaliser, pour se meilleur potiser. Ils resteront ce qu'ils ont toujours été, le parti de la haine, celui qui fait croire aux opprimés blancs qu'ils iront mieux s'ils ont en dessous d'eux des gens qui vont moins bien, des non-blancs, des fainéants, des personnes LGBTQIA+, des wokistes, des gauchiastes comme ils disent, comme ils nous appellent. Certains ont déjà proclamé qu'ils allaient casser du PD, les autres envoient une lettre à Karim Rissouli pour lui dire que les bicots comme lui, ils peuvent partir. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas parce que ça se vit à l'échelle de chacun et chacune. C'est Farida qui porte un voile et qui sent que les regards sont de plus en plus malveillants. C'est Enzo, jeune homme trans de 16 ans, qui se demande si la loi anti-trans ne va pas passer après le 7 juillet. C'est Émilie, prof de français noir dans un collège de Sarthe, à qui ses élèves disent en souriant « Vous allez rentrer chez vous, madame ?» Le nouveau monde, je ne sais pas s'il tarde à apparaître, j'ai l'impression qu'il est déjà là. Farida, Enzo et Émilie, elles sont des millions et l'avenir, c'est elles. Alors déjà, arrêtez de vous engueuler sur Mélenchon, le problème c'est pas Mélenchon, le problème c'est l'extrême droite. Et pour ça, en attendant d'aller dans la rue, parce qu'on va y retourner, il faut voter dimanche prochain, il faut voter nouveau Front Populaire. Allez, on s'engueulera plus tard. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection et aujourd'hui on a décidé de faire un PAD, c'est-à-dire qu'on sera pas en direct mais on va rediffuser le podcast. Alors je dis on mais en fait c'est je parce que Tiffaine n'est pas là, elle est prise quoi, du coup elle est, voilà, je vais faire l'émission tout seul et donc je me suis un peu emmêlé dans l'édito, désolé hein, mais je suis un peu je suis fatigué, je suis énervé, je suis en colère et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Donc je vous propose une émission, comme c'est la dernière avant le 30 juin, on en refera une après dimanche. Je vous propose d'écouter quelques sons qui moi m'ont paru intéressants et qui peuvent nous aider à faire déjà à aller voter puis à faire le bon choix pour dimanche. Je vais peut-être commencer par Corinne Maziero qui s'est exprimée sur Mediapart. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit.
Ouais, je vais pas taper sur la gueule au Parigo. Il y en a ici. Hors Paris, hors ce petit climat, on réfléchit pas, on vit pas de la même façon. Et on se sent pas représenté non plus. Que ce soit effectivement quand on est racisé, j'aime pas ce mot-là.
Moi non plus.
On est d'accord.
On aura le débat plus tard. Alors on va continuer.
On s'engueulera plus tard.
Voilà.
Bon, moi, je vis aussi à Roubaix. Je vis aussi dans un petit bled, pas loin de Boulogne-sur-Mer, un petit village. Et c'est vrai que il y a des choses qu'on peut dire à certains quand on est des grandes villes. Alors il n'y a pas que Paris, il y a aussi à Lille et tout ça, et qui passent pas là-bas. Donc il faut s'adapter à ça. Mais grosso merdo, c'est no way. On n'en veut pas, no pasaran, non, non, non et non. Alors c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front Populaire. C'est tout, il n'y a pas à chercher autre chose. On va voter pour ça. Vous êtes une gonzesse, putain, vous ne voulez pas aller voter, allez voter, putain, on est des meufs, on va s'en prendre plein la gueule. Interdiction IVG et compagnie, on a vu ce que ça donnait ailleurs. On va s'en prendre plein la gueule. Moi, j'ai mes potes, là, dans le village où on vit, qui sont en couple gay, et ils se disent, mais on va faire quoi quand on... s'ils passent ces bâtards-là, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire lyncher, on va se faire... etc. Ça a l'air con comme ça quand on vit dans des grandes villes, mais à la campagne, c'est... Non, ça rigole pas.
Ça arrive aussi dans les grandes villes, par ailleurs.
Moi, je viens aussi d'une famille d'immigrés qui a fui le fascisme de l'Italie à un moment. C'est vrai qu'il faut se remémorer ces trucs-là. Et j'ai une pote qui est beaucoup plus âgée que moi, qui me disait que son père était de droite, et pendant la guerre, quand il y a eu l'occupation, il était de droite, il avait dit « Non, ça, on s'en branle. Une fois qu'il faut aller se bagarrer contre le fascisme, on y va. » On s'en fout d'être droite-gauche, on y va, on fonce. Alors nous, pour beaucoup, on a fait barrage, les petits castors et tout ça. Ça nous faisait mal au cul d'aller voter pour des gens, même de la bande à Macron, mais on a fait barrage. Maintenant, les gars, les filles, les non-binaires, les camarades de droite, ça, je me permets de le dire, camarades de droite, allez-y, maintenant, c'est à vous de vous bouger le cul, et puis après, on verra, on s'arrangera.
Mediapart.
Voilà, on s'arrangera, on s'engueulera plus tard. Les camarades de droite, ça veut bien dire qu'on est dans une situation grave, hein, pour que Corinne Maziero en vienne à dire ça. Ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est que à chaque fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, que ce soit aux États-Unis, on l'a vu avec Trump, au Brésil avec Bolsonaro, en Israël avec Netanyahou, j'en oublie, mais en Hongrie, en Pologne, etc. À chaque fois, il y a des atteintes aux droits, il y a des atteintes aux libertés. Voilà, c'est des programmes liberticides qui, sous prétexte de rétablir l'ordre, en fait, grignotent nos libertés, qui sont également une imposture sociale, en fait, parce que le RN se présente sous les traits d'un programme qui viendrait défendre les pauvres. En réalité, on voit bien ces derniers temps que Bardella n'arrête pas de reculer, de dire que le volet social, en fait, de son programme, il faut mettre des guillemets, en fait, il est reporté à un second temps, donc ça veut dire que c'est pas la priorité et que ce sera pas fait. Et peut-être que là-dessus, il faudrait... donc j'avais pas fini, oui. Les menaces, elles sont également sur toutes les minorités, hein, les groupes minorisés, donc les droits des femmes, hein, on a vu l'IVG aux États-Unis, les personnes LGBTQIA+, ça on l'a vu aux États-Unis, au Brésil, en Pologne avec des zones free LGBT. On a vu les menaces sur la presse en Hongrie, hein, avec Orban qui a quasi supprimé toute presse indépendante et libre. Donc voilà, donc c'est grave en fait, c'est grave. Et donc sur l'imposture RN, je voudrais qu'on entende le meilleur des économistes, celui qu'on avait déjà appelé à la rescousse l'année dernière, qui avait été excellent pour démonter la réforme des retraites du camp Macron, Michaël Zemmour, et qui est tout aussi excellent dans son débunkage du programme RN.
Alors, trois choses à mon avis qu'il faut dire sur le programme du Rassemblement National. Le premier, c'est que il y a vraiment une difficulté de méthode à renvoyer les différents programmes dos à dos. Le programme du Front Populaire, il est assez clair, assez détaillé, peut-être même trop, il y a peut-être un complexe de bons élèves. Le programme du gouvernement, il n'y en a pas, on continue comme avant, c'est assez clair. Le programme du Rassemblement National, il se signale d'abord par le côté flou et brouillon. Alors c'est une stratégie politique probablement volontaire, mais du coup les chiffres collent pas, les orientations changent régulièrement, et donc c'est difficile à prendre au sérieux. Deuxième point, ça c'est plutôt une clarification politique de cette élection, c'est clairement un programme de droite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors moi, l'angle que je prends avec aussi Elvire Guillot et puis... Cyprien Battu, on a regardé un petit peu les enjeux de la politique sociale. Le programme du Rassemblement National, il va dans la direction du gouvernement Macron de continuer à vider les caisses publiques, c'est-à-dire des baisses d'impôts, enfin des baisses de cotisations sur les entreprises, des baisses d'impôts sur les plus riches. Et il fait de cette baisse de ressources publiques une priorité. Alors il le dit pas, mais ça a pour conséquence immédiate un définancement de la protection sociale, probablement des réformes... des dégradations des protections sociales à venir et un définancement des services publics. Donc ça me paraît intéressant parce que on a couramment dans le débat public cette idée véhiculée que le Rassemblement National serait en fait un peu social, un peu de gauche. Hier, j'étais sur un plateau à BFM Business et le titre, le bandeau en dessous moi et le commentaire de la présentatrice, c'était le Front Populaire et le Rassemblement National, ils ont le même programme, c'est deux programmes marxistes.
Non.
Si. Alors, là, clairement, pas du tout. On a tous les marqueurs d'un programme de droite, à la fois la baisse des recettes publiques et puis le revirement sur la réforme des retraites, qui me paraît vraiment important. On ne peut pas en même temps baisser les cotisations sociales sur les entreprises de manière massive et revenir sur la retraite à 64 ans. C'est l'un ou l'autre. Et donc, le Front Populaire, programme de gauche assez classique, dit on va revenir sur la réforme des retraites et on s'en donne les moyens, y compris avec des recettes de cotisations sociales. Le programme du Rassemblement National, il tergiverse, il tourne autour du pot, mais en fait, c'est clair, il garde les baisses de cotisations et il garde la retraite à 64 ans en disant « on verra plus tard, mais on verra plus tard si on continue à baisser les cotisations, c'est tout vu d'avance ». Ça, c'est la deuxième chose à dire, c'est un programme de droite. Et puis la troisième chose, c'est un programme d'extrême droite et c'est un enjeu économique de le qualifier comme tel. Le plus important pour eux, politiquement, et c'est pour ça qu'ils nous voient sur le reste, c'est ce qu'on appelait la préférence nationale. J'ai vu qu'ils avaient changé de terme. La priorité nationale, je crois. Dont la déclinaison, là aussi, est toujours floue, mais on voit bien la direction. Supprimer les prestations sociales, soit pour des personnes étrangères arrivées récemment, soit pour des personnes qui ne travailleraient pas. Il y a eu, par exemple, une proposition de loi du Parti communiste pour constitutionnaliser la sécurité sociale. Et l'amendement du Rassemblement National, c'était de dire « Ah non, on serait d'accord si on la réserve aux Français ou peut-être à certaines personnes qui travaillent et qui ont une résidence en France. Et donc, il y a tout un tas de mesures motivées par des motivations racistes, mais d'exclusion à la fois des droits sociaux et des emplois, publics ou éventuellement privés, qui marquent clairement ce programme à l'extrême droite. Et donc, c'est aussi en raison de ça que c'est un programme qui crée du désordre social. Alors, on avait fait des calculs avec des collègues. Par exemple, on supprime les allocations familiales aux personnes étrangères qui vivent en France depuis moins de 5 ans. Et une partie des aides au logement ont fait basculer 100 000 personnes dans la pauvreté, y compris des enfants français qui ont des parents étrangers. Les collègues dont je parlais tout à l'heure ont montré que le programme du Rassemblement National aggrave les inégalités par le haut et par le bas, c'est-à-dire qu'il améliore le sort des plus riches par des baisses d'impôts, il diminue le sort des classes populaires, et il n'améliore pas, ou pas sensiblement, le sort des classes moyennes. Voilà un peu les principaux marqueurs, toujours avec cet exercice du fait que un objet fuyant.
Donc voilà, un programme flou, un programme de droite et un programme raciste. Je trouve que ça a le mérite d'être clair et de rappeler que, en fait, le RN ne propose, et l'extrême droite en général, ne propose aucune perspective, si ce n'est de diffuser la haine, ce qui réglera évidemment aucun problème, mais ça jettera à la vindicte populaire des tas de groupes minorisés, on l'a dit, les femmes, les groupes LGBT, les personnes LGBTQIA+, les personnes racisées, etc., etc. Je rappelle que demain, ce sera l'anniversaire, ça fera un an que Naël Mourzouk, je crois que c'est son nom de famille, a été tué par la police. Là, il y a aussi de grandes menaces en fait en termes de violence policière. Et d'ailleurs, en fait, l'extrait que vous venez d'entendre, en fait, c'était dans la chaîne YouTube Au Poste, qui est animée par David Dufresne, hein, qui s'est fait connaître par sa médiatisation des violences policières au moment des Gilets jaunes et d'autres mobilisations. Et donc, je vous conseille d'aller sur sa chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'invités qui ont le temps de développer leurs propos un petit peu plus que sur BFM, parce que c'est des émissions qui durent 1h, 1h30, 2h, etc. Et donc, dans les invités récents, je crois qu'il y a Sandrine Rousseau, il y a eu Johan Chapoutot, il y a eu... Paletta, j'ai oublié son prénom, etc. Enfin, vraiment, aller voir ça, ça permet de nourrir des contre-argumentaires si jamais on en avait besoin. Sur Mediapart, ce que j'ai entendu, c'était hier soir, hein, c'était l'émission qui s'intitulait L'Agora de Mediapart, où Mathieu Magnodex avait invité des artistes, des influenceurs, influenceuses. Il y avait Anna Mouglalis, il y avait Kiddy Smile qui est qu'on a déjà diffusé ici, qui est un vogueur, je crois. Enfin voilà, vogueur queer. Et puis d'autres qui étaient moins connus, en tout cas que moi je connais pas. Je vous propose d'écouter donc Kiddy Smile et Sam qui s'expriment sur ce qu'ils ressentent là aujourd'hui. Enfin compte tenu du contexte.
Kiddy Smile, qu'est-ce que pour vous l'extrême droite au pouvoir, hein, indépendamment du fait que quelqu'un d'extrême droite et son gouvernement accèdent au pouvoir et sont dans les rouages de l'État, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour vos vies, votre communauté?
Moi, c'est hyper concret parce que, enfin, on est plusieurs ici à avoir des existences qui sont intersectionnées. Donc, ça veut dire déjà tous les droits LGBT, les acquis, on ne sait pas si on va pouvoir les garder. Parce que on voit que lorsqu'on essaye d'obtenir plus de droits, les premiers à s'opposer ou à s'abstenir, c'est toujours le Rassemblement National. Là, on voit, et surtout quelque chose qui est assez frappant quand on regarde dans d'autres pays, c'est que la communauté LGBT, c'est une cible facile, c'est un peu... on tape sur eux d'abord, et ça dérange pas beaucoup de gens en vérité, mais ça commence par les personnes LGBT et en général par les personnes trans. Et ça me fait vachement peur parce que moi j'ai beaucoup de mes proches qui sont dans un parcours de transition.
Et je qui entendent déjà beaucoup de discours très transphobes dans l'espace public en ce moment.
Dans l'espace public, mais c'est-à-dire que leur accès aux soins, ils sont en train maintenant de se dépêcher, là maintenant, de faire des choses d'entreprendre des démarches qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire maintenant, mais en se disant qu'ils ne vont pas forcément avoir l'opportunité de le faire plus tard. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment frappant, de voir des gens autour de soi paniquer pour des décisions médicales alors qu'on vit en France, on pensait que c'était quelque chose d'acquis.
Sam, justement, sur les personnes.
C'est absolument vrai. Je me suis posé la question il y a quelques jours avec un ami. Aujourd'hui, j'ai encore F sur ma carte d'identité, sur mon passeport. Et on se demandait, est-ce qu'on fait le changement civil tant que c'est encore possible, en fait. Et est-ce qu'on a intérêt à le faire maintenant? Est-ce que si on le fait, ça va nous mettre en danger? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et on se pose sincèrement la question. Et moi, j'ai peur à deux niveaux. J'ai peur sur l'aspect légal. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, jusqu'en 2016, pour changer d'état civil, il fallait accepter d'être stérilisé pour les personnes trans. Ça, bon, c'est une avancée, c'est un droit. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça pourrait revenir dans le sens inverse. On voit bien comment le droit à l'IVG est menacé aujourd'hui. Donc il y a l'aspect légal et le RN, on voit les votes qu'ils ont faits au Parlement européen. Enfin, on voit très bien en fait qu'ils sont, à chaque fois, ils s'abstiennent ou ils votent contre les avancées de droit LGBT. Donc il y a clairement ça. Donc il y a l'aspect légal, moi, qui m'inquiète très sincèrement. Et ensuite, il y a le climat social. Parce qu'il y a l'aspect légal et ensuite, il y a ce qui se passe dans la rue. Mmh. Et on l'a vu au lendemain des européennes, l'agression homophobe où un militant d'extrême droite a dit vivement dans 3 semaines, donc au lendemain des législatives, on va pouvoir casser du PD autant qu'on veut. Moi, j'ai peur, en fait. Moi, sincèrement, j'ai peur de sortir dans la rue aujourd'hui. Mais alors, je me dis, qu'est-ce que ça va être si on a un gouvernement d'extrême droite? J'ai sincèrement peur. Et comme le disait Kidi, il y a une montée de l'homophobie et de la transphobie, dans le sens où, par exemple, Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours que le changement d'état civil, justement, il a qualifié ça d'ubuesque. Ça, c'est de la transphobie, c'est censé être un délit. Le président de la République commence à dire des choses comme ça. On a raison d'avoir peur. Les personnes trans, on est les premières à passer sous le bus, en fait. Donc moi, j'ai peur, sincèrement, j'ai peur à la fois des lois et j'ai peur du climat social. Et je le vois à titre personnel, je le vois dans mes commentaires, en fait. Dans le sens où...
Vous êtes exprimé sur la situation et ça a déclenché beaucoup de violences. Vous êtes d'ailleurs pas le seul à être concerné par ça.
Dans mes commentaires, c'est horrible. Enfin, j'ai des menaces de mort, j'ai des gifs mitraillettes, j'ai des gifs lance-flammes. Enfin, j'ai vraiment des choses atroces. Oui. J'ai une personne qui m'a dit « Tu vas sûrement bientôt porter le triangle rose ». Donc, pour les personnes qui ne savent pas, le triangle rose a été utilisé pour marquer les personnes LGBT par les nazis. Les personnes homosexuelles ont aussi été déportées. Je fais un parallèle très clair entre ce qui se passe en ce moment et le nazisme dans les années 1930 en Allemagne. Et on sait très bien où c'est que ça a fini. Et du coup, moi, ma question, c'est où c'est que ça va s'arrêter, en fait? Et j'ai sincèrement peur. Et aux personnes qui nous regardent, de quel côté de l'histoire voulez-vous être? C'est ça la question que je pose aujourd'hui. Oui. On est dans un moment historique, en fait. Il faut en prendre conscience. Ce n'est pas dans 5 ans qu'il va falloir se réveiller, c'est maintenant, en fait. Le vote, c'est dimanche. Donc, allez voter, mobilisez-vous, essayez de convaincre autour de vous. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous, en fait. We'll be right back.
non, non.
Sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection, vous venez d'entendre Slap My Butt de Kiddy Smile qu'on venait d'entendre dans le son d'avant, hein. Kiddy Smile et Sam, donc, qui est influenceur, un homme trans en fait, qui est influenceur sur Instagram, sur YouTube, et qui dit votez Front Populaire, et si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous. Je trouve ça assez, assez touchant comme déclaration. Pour finir, parce qu'on s'achemine tranquillement vers la fin de cette émission, c'est rapide, hein. Je voulais vous faire écouter alors un autre média indépendant. Il y a aussi la question de comment ces médias vont survivre, hein, Mediapart, Au Poste, Blast. Donc là c'est Blast et c'est Usul, donc dans Rhinocéros, qui est Usul, moi j'adore ce qu'il fait, et dans Rhinocéros il fait des analyses hyper intéressantes. Il parle du Mélenchon bashing, et je voulais quand même j'en ai parlé un peu dans l'édito, mais je voulais en rajouter une petite couche. Voilà ce qu'il dit.
Comme Jean-Marie Le Pen jadis, Jean-Luc Mélenchon est devenu le diable de la République. Sa seule évocation fait frémir les journalistes et devrait suffire à effrayer la ménagère. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon...
Ah oui, une fois avec Oz, vous aviez fait une vidéo qui s'appelait « Pour sauver la gauche, faut-il sacrifier Jean-Luc Mélenchon ?»
Oui. Eh ben, j'avais pas répondu oui, j'avais dit que ce serait dommage. Et aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter que ce serait un très mauvais calcul. Et là, je vais m'adresser au cadre de la gauche.
Carrément. Solennel et tout.
Oui, bah attends, si je suis pas solennel maintenant, je sais pas, l'heure est grave, je vais faire ça quand sinon. Ouais. Pour tous ces journalistes bourgeois, installés, médiocres, Mélenchon, c'est pas juste quelques petites phrases qui sont mal passées, c'est 15 ans de combat. 15 ans d'ego froissé pour eux, bien sûr, mais aussi 15 ans qui ont transformé la gauche, qui ont formé la jeunesse. Et c'est ça qui ne passe pas, au fond. Une gauche à la Glucksmann, à la Hollande, ça leur conviendrait bien à tous ces gens, on l'a bien vu. Mais une gauche de rupture, une gauche de transformation sociale, évidemment que ça passe pas. Et c'est de ça dont Mélenchon est devenu le nom. Donc écoutez-moi bien les chefs de la gauche, là, hein, pendant que je vous tiens. Après Mélenchon, ce sera votre tour. C'est vous qui vont diaboliser une fois qu'ils en auront fini avec le vieux. Les écolos, vous serez des éco-terroristes. Les féministes, vous deviendrez des folles, des hystériques mal baisées. Les communistes, vous redeviendrez des staliniens dès que vous aurez arrêté de parler de viande et que vous parlerez de communisme. Les socialistes, même les socialistes, si vous leur proposez autre chose que du Valls ou du Cazeneuve, ils vont se rappeler que vous aussi, vous êtes de gauche au fond, quelque part. Et ça va de moins en moins bien passer.
Vous avez vu l'état de notre système médiatique ? C'est catastrophique. Vous ne la voyez pas, cette osmose morbide entre une extrême droite conquérante et des bourgeois plus apeurés que jamais à l'idée de voir la société leur échapper.
Ce vote de dimanche prochain, c'est sans doute la dernière occasion de mettre un frein à cette mécanique-là qui s'est mise en place avec tous ces petits fachos minables, leurs médias, leurs hommes politiques. Il va falloir arrêter tout ça, il va falloir réguler tout ça aussi un petit peu. Et pour ça, il n'y a pas 40 000 solutions, il va falloir voter et faire voter.
Front populaire, hein ?
Ah bah oui. Bah oui, Front Populaire. Parce que quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, là, c'est Front Populaire. Hein ? Et puis on se tient d'ici là.
Voilà, donc regardez dans votre circo si votre candidat, votre candidate, c'est Christophe Rouillon, Mathilde Jacques, Guylaine Bonnet, Marietta Caramanli. Il m'en manque une, mais j'ai mangé son nom, je le retrouverai une autre fois. Et voilà, vous regardez, de toute façon, il y a l'étiquette Front Populaire sur les tracts. Pour finir, il y a une petite vidéo qui a circulé de Ruffin qui... c'est elle que j'ai oubliée, Élise Le Boucher. Voilà, on va terminer par ça. Ruffin qui soutient Élise Le Boucher, on l'écoute.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, vous savez que dimanche prochain, dimanche 30 juin, il y a des élections législatives partout dans le pays parce qu'Emmanuel Macron a décidé d'une dissolution. C'est l'occasion de lui renvoyer ça comme un boomerang dans la figure parce qu'on peut en finir là avec lui et surtout avec sa politique. Pour ça, on peut s'en sortir par le bon bout, par le bon bulletin, et le bon bulletin, c'est le bulletin du nouveau Front Populaire. On a besoin d'envoyer à l'Assemblée des gens qui connaissent la vie des gens, qui connaissent la France d'en bas pour aller là-bas secouer la France d'en haut. On a besoin de gens qui aspirent à une chose, changer un peu la vie en mieux. Au moins un peu, juste un peu, mais en mieux, plutôt que de glisser sur la pente du pire, la pente de la résignation, la pente du découragement, la pente de l'abattement, et qui ont un souci, comme vous, comme moi, c'est d'ouvrir un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Et dans votre coin, dans la Sarthe, le bon bulletin, c'est celui de ma collègue, camarade, Élise Le Boucher, qui là, en plus, a affronté une Le Pen, Marie-Caroline Le Pen. Mais, allez, petit clin d'œil, je pense qu'elle va n'en faire qu'une bouchée. Voilà. Allez-y dimanche 30 juin, allez-y dimanche 7 juillet, et avec le bon bulletin, eh ben, à la fin, c'est nous qu'on va gagner.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve mercredi prochain, ce sera la dernière de l'année, et j'espère qu'on pourra... Que les nouvelles sont bonnes, quoi. Voilà. Donc en attendant, votez. Si vous pouvez pas voter, faites une procuration. Si vous allez voter, regardez autour de vous s'il y a des gens qui ont pas besoin d'une procuration. Voilà, parce que toutes les voix vont compter. Toutes les voix avaient compté l'année dernière et cette année, ça va être encore plus important. Voilà, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.